Je vais vous passer des voilà. Le résumé de ce que je vais vous donner ce matin. J'en ai fait une quarantaine, alors je pense que tout le monde, oui. Ah, c'est bien.
Merci beaucoup.
Merci. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. C'est pas assez proche. Ok. Alors, j'ai appris à vous connaître, puis j'aime toujours ça, venir parmi vous. Je trouve que à foi et partage, comme je disais tantôt à quelqu'un, il y a toujours un accueil, il y a toujours un amour qui transparaît. Et on va en parler aujourd'hui de cet amour de transfiguration, hein. Et qu'on commence tranquillement à être transfiguré. Ça, c'est un beau thème, la transfiguration. Ça fait partie du thème, puis de ce thème de Tu l'as dû prier à mes yeux. Hein? Je voulais commencer par un petit texte d'Isaïe, parce que moi, j'aime particulièrement le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe est un des plus importants de l'Ancien Testament, de la Première Alliance. Vous avez choisi une phrase du prophète Isaïe au chapitre 43. Et c'est ce qui m'a attiré pour choisir cette journée-là du mois de janvier. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Hein, c'est ça, c'est le chapitre 43. Mais moi, je vais vous lire ce petit passage-là pour commencer, pour la prière. Le Seigneur est un Dieu éternel. Il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Et son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué. Il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. Hey, on a-tu besoin de ça un peu, hein? Qui nous pose des ailes comme les aigles. C'est un très beau texte, hein? Tout Isaïe 2, parce qu'il y a eu trois livres du prophète Isaïe, là, on parle du deuxième Isaïe, celui qui était en exil. Je vais vous en parler un petit peu. Si vous êtes découragé, si vous êtes triste, si ça va pas, là, s'il y a des bouts comme ça, des fois, dans nos vies où ça va pas, on est découragé, on est triste. Lisez le prophète Isaïe 2. C'est un prophète extraordinaire. C'est à partir du chapitre 40, là, hein? 40 à 55. Ça s'appelle le livre de la consolation d'Israël. Ça commence comme ça, d'ailleurs. Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Alors, je vous assure que c'est un prophète extraordinaire. Puis quand on sait, j'ai marqué qui est Isaïe sur votre feuille, qui est Isaïe. Isaïe, c'est un prophète, hein, qui fait partie d'une école prophétique. Un prophète n'est jamais seul à ce moment-là en Israël. Là, on se situe aux alentours de moins 550 avant Jésus. On était à moins 550 avant Jésus. Et ce prophète-là, c'est celui qui a utilisé des mots d'amour pour parler de Dieu. Il est le premier. Il y en avait d'autres avant lui. Osée, par exemple, avait déjà parlé de l'amour de Dieu. Mais Isaïe utilise un langage très affectif pour parler de Dieu. Très, très affectif. Comme on en trouve peu dans le Premier Testament, dans l'Ancien, dans ce qu'on appelle familièrement l'Ancien Testament. Il avait pris des mots, par exemple, que le Seigneur était pour nous comme une mère qui nous prenait dans ses bras. Et qui va dire, par exemple, si une mère oubliait son enfant, si par hasard, il dit, moi, dit le Seigneur, je ne t'oublierai pas. J'ai inscrit ton nom sur la paume de ma main. J'ai inscrit ton nom sur la paume de ma main. Et ce prophète-là, vous allez dire, bon, oui, il avait découvert l'amour de Dieu, ça faisait peut-être 300-400 ans qu'il cheminait avec ce Dieu-là, mais, c'est assez étonnant, il était en exil, ce prophète-là. Il n'était pas chez lui, il n'était pas à Jérusalem, il était à Babylone. Et à ce moment-là, le petit peuple d'Israël avait tout perdu. Plus de roi, plus de cour, plus de temple. Et ils étaient partis sur le chemin de l'exil. Et beaucoup étaient morts, beaucoup s'étaient se demandaient, mais où est-il ton Dieu? Hein? Des fois, on pose ces questions-là dans la Bible, mais où est-il ton Dieu? Comment ça se fait ça qu'il n'est plus capable de te sauver? Comment ça se fait ça qu'il a l'air absent? Il a l'air silencieux. C'était l'époque qu'on appelait du silence de Dieu. Les prophètes essayaient de garder la foi avec la foi du peuple en éveil. Et là, ils sont en exil. Puis c'est dangereux d'être en exil, hein? Parce que dans ce temps-là, là, le peuple qui était conquérant, le peuple qui était conquérant, les Babyloniens, ben vous connaissez Nabucodonosor, on entend souvent ce mot-là, le roi de Babylone, il avait détruit tout Jérusalem. Et ils avaient amené l'élite du peuple en exil. Et le conquérant pouvait imposer son Dieu. Parce qu'il était conquérant. Donc, il pouvait imposer son Dieu. Et dans ce temps-là, ben, Israël avait son Dieu, puis les Babyloniens avaient leur Dieu, puis les Hittites avaient leur Dieu, et les Égyptiens avaient leur Dieu, et il y avait une foule de dieux à ce moment-là. Là. Mais Isaïe va affirmer haut et fort dans le livre d'Isaïe qui est parvenu jusqu'à nous. C'est extraordinaire. Il va affirmer que ce Dieu-là, avec lequel ils ont cheminé depuis quelques centaines d'années, avant de partir en exil, 200-300 ans, je dirais, eh bien, Isaïe peut affirmer que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui les aime. Vous vous rendez compte? Là, je pense, je vois ça dans mon imagination, là, le peuple en exil, qui a tout perdu, hein, et qui on voit dans le livre du prophète Isaïe, on dit Israël, pauvre larve. Hein, il est comparé à une larve, il est comparé à un vermisseau. Pas grand-chose, hein, une larve, un vermisseau, là. N'importe qui peut les écraser, là. Et en exil, Isaïe proclame que ce Dieu-là les aime et que Israël a du prix. Vous rendez-vous compte de la situation. Quand ça va bien dans nos vies, quand ça va bien, c'est le fun d'affirmer que Dieu nous aime. Oh oui, Dieu t'aime, oh, Dieu m'aime. J'ai de l'argent, ça va bien dans ma vie, ça va bien dans mon travail. Je suis une personne, bon, tout le monde. Mais quand ça se met, des fois ça va mal dans nos vies. Des fois, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est pas magique la foi non plus. Hein. Alors là, que quelqu'un vienne nous dire « Oh, écoute, ça va mal dans ta vie, mais Dieu t'aime. » Je vais dire « Regarde. » Moi, une fois, il y a une femme qui m'a répondu « J'aimerais qu'il m'aime un peu moins. » Oui, oui. Parce qu'elle dit, quand on est avec Dieu, puis on dit qu'il nous aime, elle dit, des fois, il nous arrive des trucs, des choses difficiles. Puis elle dit, la foi, dans ce moment-là, est mise à l'épreuve. Et c'est difficile. C'est difficile. Hein? Parce que nous autres, on croit, on a la foi, et on croit que Dieu s'occupe de nous, qu'on a du prix à ses yeux. Voilà, pour Isaïe, situé dans son contexte. Isaïe va dégager, on va voir deux thèmes importants, puis qui va avec notre thème d'aujourd'hui. Tu as du prix à mes yeux. Le prix. Le prix à payer. Alors c'est le mot Goël. Vous avez ça, j'ai marqué deux termes importants pour Isaïe. Le Goël. Le Goël, c'est, vous allez voir que c'est intéressant pour nous, pour comprendre Jésus, puis pour donner un aspect plus concret au salut, dont on parle tant. Le Goël, qu'est-ce que c'est que le Goël? En ce temps-là, du temps d'Isaïe, il y avait beaucoup de gens qui étaient enlevés pour être esclaves. Hein? En Égypte, dans la cour d'Égypte, il y avait des esclaves. À Rome, il y avait des esclaves. En Grèce, il y avait des esclaves. Il y avait des esclaves. À Babylone, il y avait des gens qui étaient enlevés pour être esclaves. Et l'esclavage, Israël avait toujours eu l'idée que, de par sa foi, que l'esclave devait être racheté. Et celui qui rachetait un esclave, c'était son père, son oncle, ses cousins, donc quelqu'un de la même famille. Lui avait le droit de rachat. On l'appelait le Goël. Il fallait qu'il soit de la même parenté. Et on l'appelait le mot Goël. C'est un mot hébreu, hein, qui se traduit par le plus proche parent. C'est le plus proche parent. Savez-vous comment on a traduit ça en français? On a traduit ça par rédempteur. Rédempteur, rachat, racheté. Mais voyez-vous comment on n'en saisit plus ce qui est concret là-dedans. Ce qui est concret, c'est que celui qui a le droit de rachat, celui qui rachète l'esclave, c'est le plus proche parent. Ça va être beau quand on va arriver à Jésus. Là, je vous le dis tout de suite. Pas grave, je vois d'un test. Hein. Quand on arrive à Jésus, on dit de Jésus qu'il est venu chez nous. Et pour nous racheter, comme on était esclaves, hein, de la haine, de l'amour, de la violence, du péché. Et Jésus se fait notre plus proche parent. Il est notre rédempteur. Il fallait qu'il soit notre plus proche parent. Je trouve ça tellement beau. Et dans tous les enseignements que j'ai donnés, ça touchait beaucoup, beaucoup les gens. Ils disaient, mais c'est ça, pour nous racheter, pour avoir le droit de rachat, il fallait que Dieu vienne chez nous, qu'il soit notre plus proche parent. Notre plus proche parent. Je le répète souvent parce que c'est important. Il est notre Goël. Il est notre rédempteur. Hein? Et je vous ai mis un petit texte là. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, ton Créateur qui t'a formé, ne crains pas. Ça, c'est Isaïe qui parle là. Mais Jésus aimait beaucoup Isaïe, hein. Jésus connaissait très certainement le prophète Isaïe. Ça transparaît partout dans l'Évangile. Ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, car je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël, ton sauveur. Alors, ça nous vient d'Isaïe 43, ce que vous avez choisi, tu as du prix à mes yeux. Si on a du prix à mes yeux, si on a du prix aux yeux du Seigneur, ça change tout, quoi. On est quelqu'un aux yeux du Seigneur, on est quelqu'un pour lui. Ça a commencé, ça, en exil, hein? Alors qu'ils étaient dans l'abîme de la désolation en exil, hein? Ils vont avoir, par exemple, le chant du serviteur, là, hein? Vous connaissez tous ça, le chant du serviteur. Hein? Voici mon serviteur, hein? il était sans aucune apparence, il était pas beau, on avait craché sur lui. Hein? Et c'est, pour beaucoup, ça se situe dans l'Ancien Testament, c'est le petit peuple qui est en exil. Voilà, donc le plus proche parent, notre Goël Rédempteur, il est notre plus proche parent. Alors, déjà, Isaïe disait cela. Isaïe, il y avait un autre thème aussi qu'il affectionnait beaucoup, puis ça, je trouve ça très beau aussi. C'est la transfiguration. Isaïe disait, on était venu à dire que Dieu pouvait tout transfigurer. Dieu pouvait tout transformer. Il pouvait transformer nos fautes en pardon. Il pouvait transformer nos laideurs en beauté. Il pouvait transformer nos tristesses en joie. Que Dieu était le Dieu de la transfiguration. Hein? Et ça, là, on est proche, proche, proche. Isaïe, avec ça, s'approchait très, très proche de la résurrection. La résurrection, c'est ça, c'est la transfiguration. C'est on transfigurer, changer de visage. Hein? Devenir le visage, un visage illuminé. Devenir un visage lumineux. Devenir le visage, hein, de Dieu lui-même. Alors, c'est ça, la transfiguration. Et Isaïe avait découvert ça. Puis ça, là, c'est facile à comprendre, là. C'est dans l'amour qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est que la transfiguration. Dieu veut tout transfigurer dans nos vies quand on l'aime, puis quand parce qu'il nous aime. Regardez une maman. Moi, je donne toujours l'exemple de la maman. La maman, son petit enfant de 2 ans, lui apporte un petit bouquet de pissenlit, tu sais, garde. Hein, de pissenlit, c'est pas bien beau, ça tâche. La maman pourrait dire à son petit enfant, de pissenlit, de... Hein. La maman va dire à son petit enfant, « Oh, c'est bon, chéri. Oh, tu m'apportes un beau bouquet. Oh, t'es gentil. » C'est pas un beau bouquet. C'est des yeux de pissenlit. Mais, dans les yeux de l'amour, les pissenlits sont transformés en beau bouquet. Hein? C'est comme la maman, là. Elle regarde son petit bébé. Il y avait une maman, on raconte... Le père Bernard a un texte là-dessus que la maman, son enfant, quand il est venu au monde, il avait le visage déformé. Il avait un bec de lièvre, puis tout ça. Puis la maman qu'il tenait dans ses bras, elle disait, « Oh, qui est beau! Oh, c'est le plus beau des petits-enfants! Oh, qui est beau! Oh, qui est beau! » C'était le regard de l'amour, hein? N'est-ce pas? C'est le regard de l'amour qui transforme tout. Hein? Tu sais, quand nos enfants tombent en amour, j'ai une fille une fois, je m'en rappellerai toujours de ma vie, était en amour. C'est un vrai coup de foudre, là. Puis, elle dit à maman, t'as-tu vu comment il est beau? Il est beau, mon chum, il est beau, Sébastien. Moi, je ne trouvais pas pire, mais bon. Elle dit, regarde, maman, t'as-tu vu comment il est beau, là? Ben, c'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu nous voit beau. Il nous voit transfigurés. Il nous voit déjà transfigurés. Il nous voit comme ça. C'est nous autres qu'on a de la misère à se voir, à se voir beau. On se regarde dans le miroir, on se dit, ben, je suis bien vite à la tête. T'sais, j'ai l'air fatigué. C'est Dieu nous voit beau. Ça, c'est la transfiguration, là. C'est un thème tellement important. Hein? Jésus nous voyait. Quand il était, il voyait tout le monde transformé, transfiguré par l'amour. Et c'est ça qu'il nous répétait jusqu'à mourir, hein. Dieu vous aime. Vous êtes ses enfants. À ses yeux, vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Hein? Vous êtes beaux, vous êtes belles. Vous êtes des belles personnes. Ça, là, c'est, pour moi, là, c'est la moitié du message de la foi. Puis ça fait partie du salut. Puis se trouver belle, puis se trouver beau. Ça fait partie du se trouver bon, puis se trouver fin. Moi, j'ai pas été élevée comme ça. Hein? Quand j'étais jeune, on me disait tout le temps, « Oh, ça, c'est égoïste, hein? Tu penses à toi. » Quand j'ai vieilli un peu, j'étais à l'université, puis un professeur qui m'a fait comprendre, m'a fait expérimenter qu'est-ce que c'était que de s'aimer soi-même? Qu'on ne pouvait pas arriver à aimer les autres si on ne s'aimait pas soi-même. C'est important. Dieu nous aime. Qu'est-ce qu'on est, nous autres, pour dire, quand on faisait la rencontre, ouais, la rencontre, c'est ça, là. Oh oui, c'était mariage. Mariage. En anglais, marriage encounter, hein, ouais. Puis, c'était marqué sur un grand panneau en avant, c'est marqué Dieu ne fait pas de scrap. Vous rappelez-vous de ça, hein? Dieu ne fait pas de scrap. Ben, on n'est pas de. Hein? Ça, c'est beau. Ça, c'est la transfiguration. Et j'ai un texte, on va finir cette partie-là avec ça. « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami. » Dieu appelle Israël son ami. On est encore dans l'Ancien Testament avec Isaïe. « Toi à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. » Parce qu'une grosse partie du peuple se sentait rejeté par Dieu. Ils sont en exil, là. En tout cas, ça va pas bien. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide. Voyez-vous, il fallait qu'Israël, pas mal, soit transfiguré. On a ça beaucoup dans Isaïe 2. Hein, le changement de perspective. Hein? Je te rends vigoureux, tu te penses faible, je te rends vigoureux et je t'aide. Redresse tes épaules, tu sais. Je te soutiens de ma main droite victorieuse, car moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Et je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours, je suis le Saint d'Israël, ton Rédempteur, ton plus proche parent. Moi, je suis plus capable d'avoir un mot Rédempteur sans ajouter à côté ton plus proche parent. C'est bien plus concret. Et le mot Rédempteur, ça ne veut plus rien dire pour nous en français. Oh, oui. Ça veut dire, je suis un gros pécheur, je suis un mécréant, je suis un méchant. Puis Dieu, c'est mon rédempteur, hein, il est venu me sauver de mes péchés. C'est vrai ça, là, je dis pas que c'est pas vrai. Mais je dis que ça devient moins concret quand on dit, Jésus, il est notre plus proche parent. Il est venu vers nous, c'est l'incarnation. On va voir ça tantôt, dans la deuxième partie. On chante ça? Avec notre ami Isaïe, tu as dû crier à mes yeux. Un beau chant de Robert Lebert, hein? Ça va venir jusque-là? Pas compliqué, pas trop compliqué. Hein, le plus proche parent et la transfiguration. Je vous ai fait une feuille pour qu'il vous reste, un petit quelque chose. Hein. Alors, donc, avec la transfiguration, on s'approche beaucoup, beaucoup de la résurrection. Notre professeur en France, il nous dit toujours, professeur à message, il nous dit toujours, moi j'ai hâte que les prédicateurs se servent du mot transfiguration pour parler de la résurrection. Ça aussi, résurrection, c'est un mot qui on va le voir tantôt un petit peu, là, c'est un mot qui a, on a tellement entendu parler, puis vous autres encore plus que les autres, vous vous donnez beaucoup de ressourcements. Moi, quand vous m'invitez, là, je pense à ça. Qu'est-ce que je peux bien leur dire de neuf? Moi, j'admire beaucoup ça, votre ce que vous vous donnez comme ressourcement. C'est merveilleux, hein? Vraiment merveilleux. Alors, je t'assure, là, les compliments, là, moi. Alors, donc, on a du prix aux yeux de Dieu. On a du prix à ses yeux. Et il faut vraiment méditer ça longuement. Parce que des fois, on s'aime pas nous-mêmes. Hein? Parce qu'on se voudrait bon, parce qu'on se voudrait pieux, parce qu'on se voudrait vraiment toujours formidable, toujours accueillant, toujours de bonne humeur. Mais oubliez pas que Dieu peut tout transfigurer. Je vous le répète encore. Il peut transfigurer nos peines en joie. Il peut transfigurer nos deuils en joie aussi. Il peut transfigurer nos péchés. Il peut transfigurer nos péchés. Hein? Je vais vous raconter une petite histoire tantôt. Il s'agit de lui donner. Il faut tout donner. Il faut tout donner. Ce qu'on donne à Dieu, Dieu c'est la lumière. Jésus c'est la lumière du monde, il a dit. Et ce qu'on a de moins bon dans le profond de nous-mêmes, il faut y donner. Puis Dieu, lui, il transfigure cela. Il amène cela à la lumière. Il fait changer de sens. Ça, on le vit tout le temps. Ça fait partie de la résurrection, trouver un sens nouveau hein, à nos vies. Ça fait partie de la résurrection. Alors, donc, j'ai choisi comme texte pour l'incarnation. Je vais parler deux termes très rapidement. Ça passe vite. Hein. L'incarnation puis la résurrection. C'est là le tu as du prix à mes yeux. Jésus, Dieu, nous donne Jésus. Il vient lui-même, Dieu, en prenant la forme d'un fils, en se faisant lui-même enfant. C'est Dieu qui. Puis ça, là, c'était voulu depuis toujours. C'était voulu depuis toujours que Dieu vienne, parce que Dieu savait bien que par nos forces, nos petites forces, on ne serait jamais capable de l'atteindre, que le fossé entre lui et nous resterait infranchissable. Et Dieu décide de franchir cet abîme que Pierre-René, que vous avez eu dernièrement, appelle la descension. Il vient vers nous. Il vient vers nous. Parce que nous avons du prix à ses yeux. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut qu'on soit avec lui toujours. Alors, en voyant Jésus, ben, nous prenons conscience qui nous sommes aux yeux de Dieu. Qui nous sommes aux yeux de Dieu? Pécheurs, oui. Oui, pécheurs, mais pécheurs pardonnés. Je me rappelle les premières années que je donnais l'enseignement, ça fait longtemps, et on disait tout le temps ça. On est pécheurs, oui, 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 mais des pécheurs pardonnés. Pardonnés parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut pour nous le meilleur. Et c'est Dieu qui fait le chemin vers nous, comme je vous dis. Hein? Nous sommes si importants. Nous sommes si importants qu'il vient s'unir à nous. Il y avait notre problème qui nous disait, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein? Il s'est uni à nous pour le pire et nous lui restons unis pour le meilleur. Il s'est uni à nous pour le pire, d'une certaine manière. Il est venu chez nous, il a souffert. Hein? Il a donné sa vie. Toute sa vie qu'il a passée avec nous, je donne ma vie, disait-il. Toute sa vie, comme nous, on est invités à faire. Hein? On ne va pas donner notre vie juste à notre mort. Il a donné sa vie, toute sa vie. Toute sa vie a été un don total, Jésus. Hein? Il le disait lui-même, il le disait d'une façon imagée en disant, mais le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer sa tête. Il est tout le temps assailli par une horde de gens qui veulent être guéris. Jésus, Jésus, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi de ma surdité, sauve-moi de mon aveuglement, sauve-moi, Jésus. Il était tout le temps assailli par une horde de gens qui voulaient être guéris, qui voulaient être guéris physiquement, parce qu'ils voyaient en lui un guérisseur, bien sûr. Donc, en Jésus, croyez-le, en Jésus, c'est Dieu qui nous comble de sa vie ici-bas. C'est ça l'incarnation, hein. Dieu qui est ça. Je veux pas en parler trop longuement parce que vous savez qu'est-ce que c'est. Jésus qui prend sur lui notre misère, qui prend sur lui notre condition jusqu'à la mort, hein, pour nous montrer combien nous sommes appelés à lui, à aller à lui, comme il vient vers nous. Et j'ai choisi ceci, hein, pour l'incarnation. Au commencement était le Verbe. C'est un texte de Jean, Saint Jean au chapitre 1, moi qui me parle énormément, c'est d'une richesse extraordinaire. Et le Verbe au commencement était le Verbe. Au commencement était la parole, le Verbe, parole, logos, la parole de Dieu. Dieu, Jésus est parole. C'est pas juste être parole, c'est pas juste parler blablabla. Bla. Tout ton être est une parole. Et quand tu rencontres quelqu'un puis tu lui fais ça, c'est une parole. Tu n'as pas parlé. Mais, hein? Le mot parole en hébreu veut dire agir. Hein? C'est très riche, le mot parole. Je ne vais pas vous faire ça à matin, là, ça serait trop long. Mais alors, le Verbe, Jésus est une parole. Sa présence même au milieu de nous est une parole. Et c'est un agir, c'est, voilà. Et tout par lui a existé. Et lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa lumière. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jésus était la lumière du monde. J'aime beaucoup ça, hein. Être éclairé par la lumière du Christ. Quand on a du prix aux yeux de Dieu, quand on reconnaît, on est éclairé par une lumière qui n'est pas la lumière des ampoules ou la lumière soleil, mais une lumière intérieure. Des fois, on rencontre des gens puis ils ont des faces lumineuses. Hein? Je sais pas, ils ont des faces transfigurées. On en rencontre. Hein? Et sont éclairés par la lumière de Dieu, par la lumière intérieure de Dieu. C'est vrai qu'il faut le fréquenter un peu, je le sais bien. Puis en se fréquentant les uns les autres aussi. Parce que c'est Dieu, Jésus, il nous envoie les uns aux autres aussi pour être cette lumière les uns pour les autres. Il n'a pas voulu vivre ça tout seul, hein? Voilà. Donc, voilà ce qu'il nous dit par l'incarnation. Et puis, ben, on ne pourrait jamais comprendre l'incarnation si ce n'était pas de la lumière de la résurrection. La résurrection, c'est la lumière aussi. Hein, les apôtres nous ont raconté ça comme ça, les évangélistes. Hein. Ils reconnaissaient jamais Jésus après sa résurrection. Il était transfiguré, tu sais, ça revient. Il était dans la lumière, il était... Quand Marie veut le retenir au tombeau, Marie, elle prend par les pieds, puis elle dit, « Reste avec moi. » D'abord, elle ne le reconnaît pas, c'est assez étonnant, tout ça, mais il a changé, il est transfiguré, transformé. Son corps même est transformé. Et il dit à Marie, « Ne me retiens pas, car que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Jésus, après sa résurrection, qui dit ça, « Ne me retiens pas. » Il faut s'habituer dans la résurrection à un nouveau mode de présence, un mode de présence qui n'était pas celui de... On aurait bien aimé ça, marcher avec lui, et puis le connaître, là. C'est vrai, on dit tout le temps ça, nous autres, les chrétiens. Et qu'on aurait aimé ça, être avec les apôtres, puis les disciples, puis marcher avec lui, puis l'écouter parler. Ben, on le fait, là, on l'écoute parler. Il est là, là, il est là, il est là, il est là. On a Matthieu, Luc, Jean, qui nous ont tout raconté ça. Et Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Hein? Quiconque croit en moi vivra. » Cette semaine, je donnais un enseignement lundi soir sur la résurrection, justement. Puis j'ai pas arrêté de leur dire que la résurrection, c'était de la vie. C'était la vie. La vie. La vie est plus forte que tout. La vie veut vivre. C'est pour ça que on souffre tellement hein, quand ça va contre la vie. Quand les actions que posent les gens qu'on connaît ou les gens qu'on connaît pas mais qui sont rapportés dans le journal, quand toutes les actions des êtres humains vont contre la vie, ça nous heurte profondément. Hein? Parce que la vie, là, est exceptionnelle. Puis la vie, là, elle veut vivre. Tu sais, vous avez, moi je dis tout le temps, hein, mon mari, il a mis des blocs de pierre là, dans l'entrée chez nous, là. Puis entre les blocs, là, ils luttent contre la vie. Ils mettent de l'eau de javel pour pas que la petite mousse pousse. Puis il y a toujours la petite mousse qui pousse au travers des briques dans l'entrée. Ils luttent contre la vie, ma foi. Puis dès qu'une petite fleur, vous avez des fois une petite craque dans l'asphalte, par exemple. Puis il y a toujours une petite fleur qui se pointe par là. La vie est plus forte que la chatte. Dans nos vies, là. La vie est plus forte que la mort. La vie est plus forte que la haine. La vie est forte. On veut vivre. Il y en a un qui m'ont répondu, ouais, ben, il y en a qui veulent plus vivre. Mais c'est parce qu'ils savent pas. Ils savent pas le prix de la vie. Ça, là, on est dans un moment, nous autres, là, au Québec, là, où il faut parler un peu, hein. Parce que là, l'aide médicale à mourir, là. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, un de mes amis. Sa mère, elle a 94 ans. Elle souffre du cœur, mais elle est en bonne forme, là, tu sais. Le médecin est allé là l'autre jour, elle avait un petit problème. Il a dit, vous, là, madame, bon, je dirais pas son nom, là, mais il dit, vous, madame, là, il dit, ça serait le temps. Vous commenciez, là, il dit, à penser que vous vivrez, vous vivrez pas toujours, tu sais, commencez à penser qu'il y a l'aide médicale à moi. Ouais. Il a dit ça. L'ami, ouais, un médecin. L'ami que je connais, là, il était vraiment, vraiment pas content. Eh ben, elle est en pleine forme, a pris. Parce qu'elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle a pris pour nous autres. C'est pas important, ça. Hein? La vie est forte. La vie, alors 94 ans. Bientôt 95. Puis sa vie est aussi, est peut-être plus importante que la mienne, que la vôtre. Qu'est-ce qu'on en sait? La vie est forte. C'est ça, la résurrection. Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Si vous nourrissez de moi, ça, c'est l'Eucharistie, je vous en parlerai un jour, ben vous vivrez aussi pour toujours. Votre vie va être éternelle. Vous ne serez pas immortel, vous allez être éternel. Parce qu'il faut passer par la mort. C'est ça qui est le pire. Hein? Moi, j'y pense là. Mais on sait, nous autres, que la mort, que Jésus, par sa mort, il a détruit la mort. C'est ça la résurrection. La mort, c'est un impasse. Regardez, on est bloqué par la mort. Et Jésus, Je fais un jeu de mots, hein. La mort pour nous est un impasse, mais Jésus en fait un passage. Un passage. Un passage à plus de vie. Un passage à plus d'amour. Un passage. Un beau passage. Alors, donc, et Jésus nous invite à, et dit, sortez de vos tombeaux. Maintenant, quand on enseigne, on ne parle plus du tombeau vide, hein? En théologie, là, on ne parle plus du tombeau vide. Le tombeau vide, là, ça ne veut pas dire grand-chose. On parle du tombeau ouvert. Ça, c'est beau. Sortez de vos tombeaux, dit Jésus. Sortez de vos enfermements. Sortez de ce qui vous empêche de plus de vie. Moi, il y a des gens qui me demandent tout le temps, « Lisette, tu peux-tu me dire quand est-ce qu'on fait la volonté de Dieu? Quand est-ce qu'on sait qu'on est... » Ah, il y a des gens, « Oh, je ne sais pas, j'ai pris cette décision-là. Sais-tu la volonté de Dieu? Je ne sais pas. » Hein, beaucoup de chrétiens se posent cette question-là. Mais vous dire une réponse très simple. Tout ce qui va dans le sens de la vie, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui va dans le sens de plus de vie, plus de vie, plus d'amour, plus de plus de plus. Hein, comme dit l'annonce publicitaire à la télévision, plus de vie, moins de mort, plus de vie. Quand ça va dans le sens de la vie, vous êtes dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il le dit par la bouche de Jésus. Je ne suis pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. La mort devient donc un passage où nous sommes enfantés. Hein? On est enfanté. Dieu nous met au monde dans une surabondance de miséricorde. Tu as du prix à mes yeux. C'est ma dignité, c'est ta dignité. Un amour grandiose, hein? Au cœur même des fois de nos refus puis de nos ignorances. Voilà. Nous passons par la résurrection, nous passons de la mort à la vie. Nous passons de la culpabilité à la paix. Nous passons des ténèbres à la lumière. Et nous passons, je ne dis pas nous passerons, là, avez-vous compris, hein? Nous passons aujourd'hui même. Nous passons, nous, de la tristesse à la joie. Nous passons de la haine à l'amour. Nous passons, hein, de cette vie, des fois qui est à moitié vécue, à une vie pleine et entière. Et ça, c'est toute la puissance de l'esprit puis la tâche de l'esprit dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Qu'il faudrait. C'est tellement, tellement vaste. Voilà. La grâce de la résurrection. Avoir du prix à nos yeux, hein. J'ai fini ça comme ça. Nous sommes invités, donc, à nous, à accepter de valoir quelque chose aux yeux de Dieu. Des fois, on dit, on rencontre souvent du monde hein, qui disent, moi, je vaux rien. D'ailleurs, ça a donné c'est le sens du mot vaut rien. Hein. Nous sommes invités à nous aimer nous-mêmes, à accepter d'être aimés, à accepter je suis aimable. Hein. Je suis aimable. Je suis aimable aux yeux des autres. Hein. Nous sommes invités à donner à Dieu, tout donner à Dieu pour qu'il transfigure tout. Et surtout ce qu'il y a de moins bon. Je vous raconte juste cette petite histoire parce que j'ai d'autres choses à vous faire faire, une petite contemplation. Le grain de blé de Tagore, de Rabindranath Tagore, hein, un sage hindou. Il disait, voilà que le roi, un roi très riche, rencontre un pauvre dans une ville quelconque. Et voilà qu'un roi très riche rencontre un pauvre dans la rue. Et le pauvre, il a son petit sac sur le dos. Et le roi lui dit, « Donne-moi quelque chose. » Et le pauvre dit, « Mais qu'est-ce que je peux lui donner? Je suis pauvre, lui, à tout. C'est le roi, il est riche, un gros carrosse doré. Puis qu'est-ce que je peux lui donner? » Et voilà que le pauvre sort de son sac un petit grain, une petite graine de pain. Et le donne au roi. Et le roi s'en va. Le pauvre arrive chez lui et il secoue son sac, il vide son sac et voilà que parmi les petits objets qu'il avait, il y avait une pépite d'or. Et le pauvre se dit, voilà le grain, ce que j'ai donné au roi, le petit morceau de pain s'est transformé en or. Et là, le pauvre pleure amèrement parce qu'il dit, j'aurais dû tout donner. J'aurais dû tout donner. Si j'avais tout donné, j'aurais aujourd'hui un sac d'or. Il faut tout donner à Dieu pour qu'il transforme toutes nos pauvretés en or. Alors maintenant, j'ai une petite contemplation. Je me suis dit qu'on parle tellement. Je parle fort. Alors, j'ai une petite contemplation pour terminer. Je me suis dit qu'on parle tellement, on vous en dit tellement des mots, que je voudrais vous passer quelque chose, puis regardez cela. Puis après, je vous donne à peu près 5 minutes pour regarder cela. Puis après, on reviendra ensemble pour que je vous donne quelques... En tout cas, vous allez voir, c'est la Trinité. Peut-être quelqu'un parmi vous l'a déjà vu. C'est la Trinité. Vous en avez... Il y en a pour tout le monde, je pense.
Merci.
On a même pour vous, là?
Oui.
Alors, je vous invite à contempler cette image. Vous savez que je travaille beaucoup avec des images. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de finir cette heure-là avec une image, une icône. Oui, faut que je parle fort. Alors, donc, je vous ai passé une image. Je vous demande de la contempler. C'est une icône de la Trinité. La Trinité miséricordieuse. Vous allez voir, c'est une contemplation magnifique. C'est plus fort que des mots, là. Je vous donne quelques minutes. Alors, oui, non, à moins qu'on, oui, d'accord. Oui. Comme je veux. Alors, peut-être que vous avez remarqué quelque chose, vous autres aussi. Certainement que vous avez vu des choses. Hein. C'est la Trinité miséricordieuse. C'est une sculpture qui a été faite par une dame, une française. Et vous avez là en bas, vous avez le lien pour aller sur Internet si vous voulez en voir plus. Hein. Alors, si on regarde comme il faut attentivement cette image, alors vous voyez que... Oui. J'ai enlevé mon cœur. Alors, c'est une scène qui est faite, qui est pleine de compassion, d'humilité et de puissance bienfaisante. Vous voyez la forme. La forme. Hein, la forme, ça évoque la rondeur de la terre, comme un ventre de femme, comme une matrice. Tout est adouci par la rondeur. Rien n'est fermé. Rien n'est blessant. C'est la Trinité, je vous répète, c'est la Trinité miséricordieuse. Et cette icône, elle s'appelle « Tu as du prix à mes yeux ». Vous allez voir. La couleur maintenant, c'est une couleur de miel. C'est une couleur de ciel. C'est la couleur or de l'amour. Dans le langage iconographique, la couleur or est toujours la couleur de l'amour. C'est la couleur de la lumière. Les iconographes, ils savent ça, eux autres. Ils vont utiliser la feuille d'or comme l'évocation la plus forte de la lumière. Regardez la couleur maintenant du petit personnage qui est à l'intérieur. Il est plus foncé. C'est l'être humain. Regardez-le. Hein? Le terreux, il est là, il est plus sombre que les autres. Là. Il est le terreux, il est tiré de la terre. Il est tiré à main forte par le Père, parce que le personnage à droite, c'est le Père. Dieu le Père. Il est tiré. Est-ce que c'est la naissance? Est-ce que c'est la mort? Il est tiré à main forte par le Père. Toute la vie est là, avec ses obscurités, ses faiblesses, avec sa confiance aussi. Le Père. Regardons maintenant, regardons le Père à droite, le plus gros personnage à droite. C'est le Père. Pas de siège royal, pas de trône, mais une scène d'humanité sobre, dépouillée. Le Père est tendre. On voit qu'il caresse le visage de l'homme, de l'être humain, et semble murmurer à l'oreille, « Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. » Son oreille est ouverte. C'est le Père prodigue qui accueille le bon Samaritain. Regardez maintenant le Fils, à gauche. Le Fils, pareil au Père, en humble place. Il est au plus bas. Il est agenouillé aux pieds de l'homme et lui baise les pieds. C'est Jésus. Hein? Il est le Fils de Dieu. Il est Fils de l'homme. La main est déjà percée, qui nous indique déjà la croix pour la vie. Regardez l'Esprit Saint maintenant, en haut. C'est un esprit de feu, force de vie. Il plonge vers l'humanité, dans le respect, dans l'amour. Voilà. L'être humain est tiré vers le haut, dans les bras du Père, et il est aidé par le Fils, hein, qui lui le pousse vers le Père, qui semble le pousser vers la vie, vers l'amour du Père, vers la vie du Père, la vie de Dieu. C'est la grâce. C'est un moment de grâce, plein de compassion, plein d'humanité. Le Père et le Fils n'ont de cesse de prendre soin de l'homme, de prendre soin de l'être humain. Prendre soin de l'être humain, c'est le penchant naturel de Dieu. Dieu n'est pas là pour être bien en lui-même, en disant « je me suffis à moi-même ». J'ai la vie, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai le Fils, le Père, le Fils et l'Esprit, c'est la Trinité, hein. Mais dans cet amour, hein, dans cette famille, hein, du Père, du Fils et de l'Esprit, il y a là l'être humain qui est au cœur de cet amour, hein, comme vous voyez ici. Comme je vous disais tantôt, comme dans une matrice, comme Dieu qui donne la vie, comme saint Paul le dit toujours. Hein? Voilà. Alors voilà comment je voulais vous faire un petit moment de contemplation sur cette image. C'est beau. C'est beau. En un seul regard, on voit de quel amour Dieu nous aime. On voit de quel amour, avec quel amour il accueille sa créature. Hein. Les pères de l'Église qui disaient toujours ça. Hein. Dieu nous donne sa vie. Dieu, il nous divinise. Il a pris notre humanité pour que nous revêtions sa divinité. Pour que nous soyons à notre tour avec lui dans sa vie. C'est bien sûr que des fois sur la terre on le voit pas tout de suite, mais c'est là, c'est fait. Comme le petit grain de blé qui est tombé en terre puis qui porte beaucoup de fruits, ben c'est fait dans notre vie. L'amour de Dieu a été répandu sur nous et notre chemin vers lui se fait tranquillement, pas vite. À travers nos bons coups, à travers nos mauvais coups, mais à travers notre vie, tout du même. Voilà. Laissez-vous aimer par Dieu, hein, c'est ce qui est important. Dites-vous, je suis beau, je suis bon, je suis aimable, Dieu m'aime. Et ça transfigure toute la vie, ça.